Donc l'organisateur de ce colloque, notre ami Jean-Pierre, a souhaité que sur deux journées avant tout consacrées à l'époque pharaonique, hellénistique et romaine, mais pas complètement, on vient de le voir, l'Antiquité tardive soit abordée et m'a demandé de faire le point sur la documentation concernant cette ère géographique après le Haut Empire. Ce ne sera pas vraiment comme papyrologue que j'interviendrai ici, car la documentation papyrologique du désert oriental est quasiment inexistante après le IIIe siècle, heureusement relayée pour une part par les sources épigraphiques et littéraires, ainsi que par les données archéologiques. Mais je ne suis pas archéologue. L'ère géographique est vaste. J'éviterai d'inclure dans mon propos les cités aussi bien sur les bords du Nil que sur la côte de la mer Rouge, m'en tenant au désert à proprement parler, ce qui, pour un spécialiste des sources écrites comme moi, réduit évidemment considérablement la matière de mon propos. Je ne vous promets aucune découverte ni aucune révélation. Ça fait déjà un certain temps que je ne travaille plus dans cette région. Je n'aurai donc pas de nouveautés, comme pour la communication précédente à vous présenter. Mais j'essaierai de clore ce colloque par un bilan sur les siècles qui ont suivi la grande époque du désert oriental et que les campagnes archéologiques de ces dernières décennies ont fait ressurgir avec éclat. Alors, le désert dans l'Antiquité tardive est fortement lié au monachisme, notamment hérémétique, à ce lien consubstantiel entre espace et forme de la vie ascétique chrétienne, est d'ailleurs bien résumé dans la polysémie du mot grec horos, qui signifie à la fois désert, désert-montagne, hein, au sens de l'arabe gabal, mais aussi monastère, hein, comme d'ailleurs le copte Tohu. Le christianisme égyptien se caractérise donc, vous le savez, par une installation des établissements monastiques à l'écart des zones habitées, dans les profondeurs arides et silencieuses du désert, au point que les déserts d'Égypte, ce peuple de moines et d'ermites, deviennent comme une cité, hein, pour reprendre le mot de la vie d'Antoine attribué à Thanase, ou que, comme le dit Abba Apollo hein, dans l'Historia Monachorum in Aegypto, il y avait autant de moines dans le désert que de laïcs dans le reste du monde. Le désert oriental ne pouvait faire exception. Je ne m'appesantirai pas beaucoup sur cet aspect de l'histoire de cette région, car le monachisme hérémétique n'est en rien spécifique au désert oriental. Le désert occidental, hein, depuis les marges du Delta, avec notamment le désert de Sété jusqu'aux frontières de la Nubie, offre aussi de nombreux témoignages d'installations monastiques dans le désert. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les centres monastiques les plus importants du désert oriental sont les monastères de Saint-Paul, hein, le Deir Mbabula, et de Saint-Antoine, Deir Mba Antonius, et les ermitages qui les entourent. La vie d'Antoine nous apprend qu'Antoine, le fondateur hein, du monachisme égyptien, voulant fuir la foule qui envahissait de plus en plus son ermitage de Pispire, facilement accessible aux visiteurs, demanda à des Saracènes, habitués au désert arabique, de l'emmener plus profondément dans le désert, et qu'après 3 jours de voyage à dos de chameau, eh bien, il s'arrêta dans un lieu qu'il trouva approprié à la Cèze, dans le Wadi Araba, au pied du Gabal el Galala el Kibliya. Après sa mort, le lieu attira d'autres ermites au point qu'on y construisit, peut-être sous Julien l'Apostat, un monastère. Je vous montre ici, évidemment, le site actuel avec cette bâtisse qui n'a rien d'ancien. Celui-ci reçoit en tout cas la visite de Sulpice Sévère vers 400, comme il nous l'apprend dans ses dialogues sur la vertu de Saint-Martin. Je le cite, hein, « Je suis allé aux deux monastères, un monasteria en latin, du bienheureux Antoine, qui sont encore aujourd'hui habités par ses disciples. Je me suis même avancé jusqu'à l'endroit où a séjourné le bienheureux Paul, le premier ermite. » Alors, on voit par ce texte que le monastère de Paul, le Saint-Paul, lui est déjà associé. Hein. Paul serait le premier ermite, selon Jérôme, hein, dans la vie de Paul, rédigée dans les années 370. Hein. Je cite ce texte. Il y avait déjà 113 ans que le bienheureux Paul menait sur la terre une vie toute céleste, et il vint en pensée à Antoine, âgé de 90 ans, demeurant dans une autre solitude, que nul autre que lui n'avait passé dans le désert la vie d'un parfait et véritable solitaire. Mais lorsqu'il dormait, il lui fut révélé la nuit en songe qu'il y en avait un autre, plus avant dans le désert, meilleur que lui, et qu'il se devait d'aller le voir. C'est ainsi donc qu'Antoine part dans rendre visite à son aîné, à 90 ans, il va rendre visite à Saint-Paul qui en a 113, vous voyez le tableau. On a montré que ce récit évidemment a été inventé et que le monastère de Paul, situé dans l'étroit Wadi el-Dir, au sud-est du Wadi el-Araba, est une création postérieure. Il n'en a pas moins fait l'objet d'une grande popularité à la mesure de celle qui entoure évidemment la figure de ce saint, quelque mythique qu'elle soit, attirant de nombreux pèlerins. Au point d'ailleurs que le monastère de Paul ravit parfois la vedette à celui d'Antoine. Par exemple, au VIe siècle, le voyageur connu sous le beau nom d'anonyme de plaisance nous raconte dans son itinéraire, paragraphe 43, que de Clisma, il est allé, je le cite, à travers le désert à la grotte de Paul en syriaque Kouba. Cette source continue à donner de l'eau jusqu'à présent. Ensuite, de nouveau à travers le désert, nous sommes parvenus aux cataractes du Nil. Donc, il ne visite pas le monastère d'Antoine. Le désert oriental, d'ailleurs, on le voit avec ce texte, faisait l'objet d'excursions touristiques, si on en croit cet auteur. Mais évidemment, le voyage du Wadi el-Dair aux cataractes du Nil, sans passer par la vallée, semble très improbable, au point que cela jette quelques discrédits sur cette relation. Il n'en reste pas moins vrai que ces monastères, malgré leur situation difficile, attirent les ascètes, mais aussi les pèlerins. Pour ce qui est des premiers, certains s'installent dans les wadis qui, venant du Gabal el-Galala el-Kiblia, débouchent sur le wadi Araba, ainsi le wadi Anaba et le wadi Nitfa ou Natfa, où l'on a repéré les sites de Ain Barda ou de Bir Bakhit, parfois appelé aussi Abu Khit. Alors plus au nord, à 68 km de Suez et à 28 km d'Ain Sukhna, on connaît aussi un autre site monastique, celui de Der Abu Darag ou Daraj, le monastère du Père des Marches, qui aurait été dédié à Saint Jean Climac, moine du Sinaï, mort en 649, l'auteur de la célèbre échelle sainte, d'où le nom arabe, Abu Darag. Darag pourrait dire marche pourrait correspondre à climax. Alors Stéphane Thym rejette néanmoins tout lien avec le saint sinaïtique qui n'avait pas de rapport avec cette rive de la mer Rouge et préfère identifier la figure éponyme comme étant Jean Colobos ou Jean le Petit, un moine du 4e, 5e siècle qui quitta Sketis pour la région de Suez. Proche de ce monastère, alors que je vous montre peut-être, proche de ce monastère, la montagne environnante est truffée d'ermitages, décrits par le père Sicard dans ses lettres édifiantes et qui ont été redécouvertes par le père Martin. Je vous renvoie au bulletin de la Société d'archéologie copte de 1965-1966 et je vous ai mis à l'écran quelques images prises par le père Martin de ces ermitages. Ermitage qui semble témoigner d'une occupation allant du 8e au 10e siècle qui pourrait précéder la construction du monastère, donc on est assez tard. La région qui est au sud de Saint-Antoine et de Saint-Paul a connu aussi des implantations monastiques, principalement au Mons Porphyrites, dont les moines apparaissent souvent dans les sources littéraires, comme l'histoire Losiaque de Palade, les institutions de Jean Cassien, ils font allusion aussi, les apophthegmes ou le prêt spirituel de Jean Moscos. On a aussi des traces d'installations monastiques dans le Wadi el-Atrash, que vous avez sur la carte. Je pense notamment au Der el-Atrash, au nom évidemment significatif, et qui conserve encore des témoignages de réutilisation d'un bâtiment plus ancien par une communauté monastique. J'aurais bien voulu vous montrer les photos que j'avais prises lorsque, avec l'organisateur du, de ce colloque. Adam et Hélène, nous étions allés rendre visite, nous avions fait une petite excursion là-bas, mais je n'ai pas réussi à retrouver les diapos. Alors évidemment, je me suis tourné vers Saint-Google pour vous montrer une image, mais évidemment, c'est beaucoup moins parlant de ces traces archéologiques. Alors, je n'insisterai pas sur cette partie du désert oriental, depuis le Mons Porphyrite jusqu'à Bérénice, car elle a fait l'objet de nombreuses investigations archéologiques ces dernières années par des spécialistes qui sont pour la plupart dans l'assistance. Et d'ailleurs, je pense que pour l'instant, une synthèse est encore prématurée. Par ailleurs, je l'ai dit, cette nouvelle population qui investit certaines zones du désert oriental à la faveur de l'expansion du christianisme et du goût pour l'ascèse en milieu désertique n'a rien qui soit propre au désert oriental. Une autre population, en revanche, fait la spécificité de cette région, a retenu l'attention des anciens et mérite donc que nous nous y arrêtions. Cette population n'a d'ailleurs pas toujours cohabité en bonne intelligence avec nos ermites, comme le montrent de nombreux récits, comme par exemple cet apophtègme des Pères du désert qui nous raconte que Saint-Antoine, le monastère, a été attaqué et pillé par des Saracènes alors qu'il était dirigé par Apa Sissoès, qui y habita pendant 72 ans, juste après la mort d'Antoine. Alors cette population, c'est celle des nomades qui sillonnent le désert oriental et qui, parfois, s'y sédentarisent. Ce sera mon deuxième point. La présence de populations non gréco-égyptiennes dans le désert, leur nomadisme, leur origine variée, dont témoigne une large gamme d'ethniques en grec, ont marqué les anciens et parfois leur imaginaire. Il n'est pas toujours facile d'y voir clair derrière les noms qu'ils utilisaient pour les désigner, d'autant que leur hellénocentrisme ne les pousse pas toujours à regarder d'un œil curieux et attentif ces populations regroupées dans la catégorie facile des barbares. Et c'est d'ailleurs sous ce nom que ces populations nomades sont désignées dans les ostracas exhumés dans les fortins de la route de Myosormos, où ils apparaissent à la faveur d'accrochages avec les soldats romains. Et je vous montre évidemment la désormais célèbre amphore des barbares, qui a été édité par Hélène Cuvigny et qui mentionne un certain nombre de ces attaques. Par ailleurs, ce que nous appelons désert oriental recouvre des zones différentes qui ont été occupées par différents types d'ethnies. Et les travaux récents de Timothy Power ont bien montré qu'il y a ethniquement parlant plusieurs déserts orientaux, celui du nord jusqu'à la route de Myosormos, était habité par une population nomade ou semi-sédentaire d'origine arabe, occupant depuis l'âge du bronze le Sinaï, l'est du delta et le nord du désert oriental. Alors elle apparaît dans nos sources sous le nom d'arabe ou de saracène. Souvenez-vous des saracènes avec lesquels Antoine a fait route à travers le désert. À la fin du 4e siècle, Ammien Marcellin évoque ces saracènes qu'il appelle Arabes Skenitae, c'est-à-dire arabes logeant sous des tentes, en disant, je le cite, ils s'étendent de l'Assyrie jusqu'au cataracte du Nil et aux frontières des Blémies. Tous sont pareillement belliqueux, à demi nus, enveloppés jusqu'aux reins de courts manteaux de couleur, filant en tous sens grâce à des chevaux nerveux et à leurs sveltes chameaux, que les circonstances soient paisibles ou tumultueuses. Alors, il n'est pas certain que cette description n'englobe pas diverses ethnies, mais ce qui est intéressant, c'est qu'Amien Marcellin situe les Saracènes, évidemment, au nord des Blémies, sur lequel je reviendrai. De même, à peu près à la même époque, vers 380, lorsque Égérie, dont on a parlé tout à l'heure, va de Clisma à Fakoussa ou Fakoussaï, c'est-à-dire aujourd'hui Fakous, elle dit traverser le pays des Saracènes, je la cite. La présence de ces tribus arabes semble être aussi attestée à Abouchar dans l'Antiquité tardive, si l'on en croit certains textes des 4e, 6e siècles, trouvés dans l'Église lors des fouilles qui ont été menées de 1986 à 1993. Texte édité par Roger Bagnall et Jennifer Sheridan. On y trouve On y trouve des anthroponymes, dans cette documentation, des anthroponymes d'origine arabe, comme ce Salamanis ou Salaman, nom attesté dans les papyrus de Nessana, qui a laissé son nom sur l'inscription que vous avez à l'écran, qui date du 4e, enfin, qui est datée par les éditeurs du 4e, 6e siècle, ou cette Slamo, hein, que vous avez sur le papyrus à côté, hein, qui est une forme d'un nom attesté aussi sous la forme Salamo, qui est à rapprocher du nom précédent, qui apparaît dans une lettre du 5e siècle que vous avez à l'écran. Alors, on a probablement affaire aux membres d'une population saracène semi-sédentarisée. Alors, au-delà du Wadi Hammamat, c'est-à-dire de la route de Myos-Hormos, les Arabes se font plus rares. Et pour Timothy Power, je le cite, hein, les régions du désert oriental de la péninsule du Sinaï au Wadi Hammamat peuvent être considérées comme le territoire ancestral des nomades arabes, une situation encore de mise aujourd'hui avec les Bédouins arabes Maza du plateau de Galala. Il est notable, dit-il, que le schéma bien attesté historiquement des raids blémis ou des sites avec l'Eastern Desert Ware ne s'étendent au nord du Wadi Hammamat, la frontière septentrionale du territoire des tribus Béja à l'époque moderne et médiévale et moderne, respectent les limites de cette vallée, ce qui suggère que la frontière en est peu, probablement très ancienne. Il lui semble d'ailleurs plausible que la frontière entre les Saracènes et les Blémis ait pu être informée par l'axe allant de Coptos à Myos-Hormos avec ses fortins et les tours qui la jalonnent. En allant vers le sud, les Saracènes, se faisant rares, laissent la place donc à d'autres populations dont la plus en vue est, je l'ai dit, la population blémie. Là encore, le terme de blémie semble être souvent utilisé dans les sources anciennes pour désigner diverses populations d'origine méridionale allant du pur nomadisme à un genre de vie plus sédentaire. Il n'est d'ailleurs pas le seul, hein, ce n'est pas le seul nom qu'on trouve dans les sources. On nous parle aussi des mégabaroïs, des troglodytes ou trogodytes, hein, qu'un commentateur d'ailleurs à Théocrite assimile au blémi, sans compter évidemment les noubades et les nobatailles. Alors pour l'étude de ces ethniques, hein, je vous renvoie à l'article de Richard Pierce, Blémi by any other name, hein, publié dans les actes du The History of the Peoples of the Eastern Desert, publié en 2012. Les sources sont nombreuses sur ces populations, souvent partielles, malheureusement, et contradictoires. Alors, nous disposons aussi sur elles de documents qui en émanent directement, hein, comme les papyrus Blémi de Gebel Ayn, ou les inscriptions trouvées à Philae et dans d'autres sites du sud de l'Égypte. Mon but ici n'est pas de vous faire un bilan sur l'histoire des Blémis et des Noubades, ce qui dépasse mon sujet, mes compétences, sans compter que cette histoire reste encore largement à écrire. Si toutefois l'habilité, dirais-je, du sujet le permet, dans la mesure où nous avons affaire à des populations nomades ayant laissé peu de traces écrites et archéologiques, dans des zones non systématiquement fouillées. Je me limiterai à ce qui touche au désert oriental, en me contentant de rappeler que l'Antiquité tardive voit un grand nombre de changements dans la géopolitique de ces populations. C'est en effet au IVe siècle que les Blémis et les Noubades deviennent de plus en plus visibles dans nos sources. Ils apparaissent soit comme surgissant du désert pour piller et terroriser les populations de la vallée du Nil, soit comme interlocuteurs du pouvoir romano-byzantin dans des tractations diplomatiques. Hein, d'après Procope, Dioclétien serait le premier à avoir négocié avec eux en donnant aux Noubades des territoires dans la vallée du Nil, autour d'Éléphantine, et en leur versant un tribut pour qu'ils cessent leur aide et contiennent la poussée des Blémis. Il aurait aussi donné aux Noubades et aux Blémis la jouissance du temple de Philae. Alors, ce récit, qui est écrit au VIe siècle, a paru fort suspect à un certain nombre de modernes qui y ont vu une contamination de la politique de Justinien. Il n'en reste pas moins vrai que d'autres sources témoignent de relations diplomatiques entre les Blémis et les Romains. Eusèbe de Césarée, dans la vie de Constantin, nous décrit les Blémis qui font antichambre à Constantinople pour être reçus par l'empereur, tandis que le fameux papyrus Abineus I, pétition latine adressée aux empereurs Constance et Constant en 300, entre 340 et 342, trouvée à Dionysias, nous apprend que l'officier Abineus a été mandaté pour conduire des réfugiés blémis à Constantinople, puis les escorter dans leur pays où ils passent 3 années avec eux. La poussée des blémis vers le nord, qui explique ces tractations, nous est confirmée aussi par un texte écrit vers 423, ce qui nous ramènera au cœur du désert oriental. Il est dû au Thébain Olympiodore, personnage fascinant, à la fois poète, diplomate, historien, explorateur, qui séjourna parmi eux. Alors, je vous cite le passage tel que Phocius nous l'a transmis dans le codex 80 de sa bibliothèque. L'historien, dit Phocius, l'historien nous dit que lors de son voyage d'enquête, hein, Historias Eneca, c'était donc bien un explorateur, aux environs de Thèbes et de Sienne, les chefs et les prophétailles, les prophètes, il s'agit d'une catégorie de prêtres, des barbares, voisins de Talmis, les blémis, manifestèrent le désir de le rencontrer. C'était sa réputation qui les attirait, et ils m'emmenèrent, dit-il, jusqu'à Talmis même, de sorte que j'ai pu explorer même ces régions-là, qui sont à 5 journées de filet, jusqu'à une ville appelée Prima, qui autrefois se trouvait être la première ville de Thébaïde du côté des barbares, et que pour cela les Romains appelèrent en latin Prima, c'est-à-dire la première. Maintenant encore, elle porte ce nom, bien qu'elle soit depuis longtemps propriété des barbares, avec 4 autres villes, Phoenicon, Kyris, Thapis, hein, dans le texte, et Talmis. Alors, Thapis, Tapha, Talmis, c'est-à-dire Kalapcha, je ne sais pas si vous le voyez sur la carte, j'ai peut-être pas besoin, je ne sais pas s'il y a un pointeur, oui. Voilà. Se situe bien au sud, hein, sous filet. Prima est identifié avec Primis, que vous avez ici, hein, Casri Brim, mais plus récemment, les éditeurs des Fontes Historiae Nubiorum ont préféré l'identifier avec une ville plus au nord, Cortia, hein, Curta, premier établissement romain quand on entre dans la Dodécachène. Mais Phoenicon, actuellement l'Achaïta, est bien plus au nord. Et se trouve donc sur la route de Myosormos, à l'embranchement de la route, hein, qui part vers Bérénice. Quant à Kyris, ce site n'est pas encore localisé, même si on a proposé de le placer sur la route de Myosormos, je dois dire sans aucun argument probant. Les blémis donc auraient occupé des positions très avancées dans le nord, hein, puisque Phoenicon est vraiment assez haut. On peut être étonné que dans une série de noms de lieux très méridionaux, on trouve un toponyme si septentrional, d'autant que Phoenicon est un toponyme assez peu spécifique puisqu'il signifie en grec palmeraie. Alors Meredith, dans le Journal of Egyptian Archaeology de 1953, avait exclu que Phoenicon d'Olympiodore puisse être l'Achaïta, alors que Jean des Anges, dans ses recherches sur l'activité des Méditerranéens aux confins de l'Afrique, ne voit pas de difficulté dans l'identification avec l'Achaïta. Bon, je ne trancherai pas ici la question. Signalons qu'un texte postérieur, en tout cas, confirme que les blémis se trouvaient bien au niveau de Coptos. Il s'agit d'un passage du Martyrium Aretae et Sociorum, tiré des Acta Sanctorum, je ne vous ai pas mis le grec à l'écran, qui nous apprend que Justin Ier, donc 518-527, demanda à l'évêque d'Alexandrie Timothée d'intervenir auprès du roi d'Éthiopie Elesbaas afin qu'il déclare la guerre aux menaçants homérites, c'est-à-dire les imiarites, et qu'il les fasse disparaître. Alors je vous cite le texte, hein, « Sa piété, l'évêque d'Alexandrie, écrivit alors au roi Elesbaas, qui aime le Christ, en ces termes. Si ta sainteté hésite à agir ainsi, du haut du ciel, Dieu se fâchera contre elle et son royaume, tandis que nous enverrons, par Coptos et Bérénice, une grande armée de blémis et de nobades, et nos contingents, se frayant un passage à travers ton territoire, détruiront tout et précipiteront l'Homérite et son pays dans l'anéantissement et l'anathème les plus complets. Alors, ce texte montre par ailleurs que le pouvoir byzantin a utilisé les blémies et les noubates probablement dans le cadre du système des fédérati ou des fédérés. À partir de la seconde moitié du 5e siècle et surtout du 6e siècle, les blémies se font de moins en moins visibles dans les sources. On les voit sédentarisés à Gebelein grâce à un lot de papyrus du début du 6e siècle, mais ils ne sont plus attestés comme des tribus commettant des pillages, si ce n'est sous la forme de topos rhétoriques dans des textes littéraires. Il semblerait que l'organisation des Noubades, plus structurée en Basse-Nubie, dans la seconde moitié du 5e siècle, ait provoqué la marginalisation des blémies et donc petit à petit leur effacement de nos sources. Alors, les blémies n'apparaissent pas seulement dans nos sources comme un potentiel danger hein, qu'il faut tenter de neutraliser, avec qui il faut tenter de s'accommoder. Ils sont aussi liés à des activités économiques propres à cette région et c'est celles-ci justement qui constitueront le sujet de ma troisième et je vous rassure dernière partie. Alors, depuis l'époque pharaonique, les vastes étendues montagneuses du désert oriental sont réputées, vous le savez tous, pour leurs ressources naturelles, principalement minières, et font l'objet d'une exploitation continue depuis cette époque, avec cependant quelques nouveautés justement durant l'Antiquité tardive. Nos sources reviennent à plusieurs reprises sur l'extraction des émeraudes dans le Mons Smaragdus, que vous avez à l'écran, le Smaragdos Oros en grec, le Gabal Zabara. Ce qui change avec le Bas-Empire, c'est que les blémies en prennent possession, probablement après que les Romains se furent retirés du mont Smaragdus ou Dioclétien selon des anges. Au moment où, justement, ils se retirent de la Basse-Nubie, une fois stabilisée la frontière au niveau de Sienne. Ainsi, Épiphane, l'évêque Épiphane de Salamine, dans son De Duodecim Gemis, écrit en 394, nous dit que, je le cite, hein, les blémies exploitent les mines du mont Smaragdus et il y a d'autres mines dans le territoire barbare des blémies eux-mêmes, situées dans les montagnes proches de Talmis, hein, vous vous souvenez, que maintenant les barbares creusent pour extraire. Ah, c'est parce que ça vibre, il ne faut pas toucher la table. Pour que les. Creusent pour extraire des émeraudes. Ce texte apporte une donnée nouvelle, celle de la présence d'autres mines d'émeraudes du côté de Talmis, à moins qu'il ne s'agisse là d'une erreur de l'évêque de Salamine. Les commentateurs ont pensé qu'Épiphane confondait ces mines près de Talmis avec celles du mont Smaragdus. Je serais pour ma part enclin à suivre Hélène Cuvigny, qui, dans la route de Myosormos, se demande si le texte d'Épiphane ne témoignerait pas plutôt d'une confusion avec l'île Saint-Jean, qui se trouve au large de Bérénice et qui est la plus riche mine de péridot au monde. Ces péridots, hein, qui étaient appelés topazes par les anciens, étaient extraits de l'île Topazos, plus tard appelée par les croisés l'île Saint-Jean, aujourd'hui Zarbagad, au large de Rasbanas. Il est donc possible qu'Épiphane ait confondu les lieux, d'autant que les reflets verdâtres de cette pierre pouvaient la faire se confondre avec des émeraudes, hein, d'où le nom qu'on donne à cette pierre en français qui est émeraude du soir, et aussi que cette île a des allures de montagne, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, rappelle Hélène Cuvigny, lorsque l'explorateur Bruce demanda à visiter au XVIIIe siècle le mont Smaragdus, c'est à l'île Saint-Jean qu'on l'amena. Les blémies ont donc, en plus des émeraudes du mont Smaragdus, exploité les péridots de l'île Topazos. Au siècle suivant, selon Olympiodore, dans le récit hein, qu'il fait de son séjour chez les blémies que j'ai déjà évoqué, rapporté par Phocius, confirme que les blémies exploitaient les émeraudes. Et au VIe siècle, Cosmas Indicoplastes nous raconte dans sa topographie chrétienne que les blémies procurent aux Éthiopiens, il faut comprendre les Nubiens, des émeraudes en vue d'un commerce avec les Indiens. Et l'on peut faire confiance, je crois, à Cosmas, qui est non seulement égyptien, mais qui avait exercé aussi des activités de commerçant. L'autre grand centre d'exploitation du désert oriental est évidemment le porphyre, hein, au Mons Porphyrites, qui connaît son pic d'activité précisément au IVe siècle du fait de l'engouement pour cette pierre de la part des empereurs byzantins. On a de cette époque une inscription dédicatoire de l'église de Mélissios sur le Mons Porphyrites qui témoigne d'un regain d'activité au Mons Porphyrites puisqu'elle atteste la restauration de cet édifice par les Parkypos, le chef des carriers, et les artisans du lieu. Les fouilles menées sur le site du Mons Porphyrites par David Peacock et Valérie Maxfield dans les années 90 ont grandement amélioré notre connaissance de cette carrière. Je n'y insisterai pas en vous renvoyant à leurs travaux, d'autant que Valérie Maxfield est intervenue sur ce sujet au cours du colloque. Autre nouveauté en la matière durant l'Antiquité tardive est l'exploitation de l'or au Bir Oum Fawahir sur la route de Koptos Myosormos. Et les fouilles menées par Carole Meyer et l'Oriental Institute de l'Université de Chicago, dont elle nous a parlé tout à l'heure, ont en effet mis en évidence sur ce site, antérieurement abandonné, le redémarrage au Ve siècle des activités minières qui durèrent au moins jusqu'au VIIe siècle, ou à la fin du VIe. Bir Oum Fawahir a dû faire l'objet d'une attention toute particulière de la part des autorités byzantines, toujours à la recherche d'or, surtout au VIe siècle, qui connaît des problèmes d'approvisionnement en or accrus par la politique de reconquête menée par Justinien, alors même que la pression des barbares entravait l'exploitation des mines des Balkans, l'autre région connue à cette époque pour ses gisements aurifères. Et ce n'est probablement pas un hasard si c'est précisément au VIe siècle, à l'époque de Justinien, que le village des mineurs de Bir Oum Fawahir atteint son extension maximale avec 250 maisons, soit près d'un millier de résidents. C'est pour cette raison que j'ai émis, il y a quelques années, l'hypothèse que cette activité minière soit à mettre en rapport avec le changement de nom que connaît la cité la plus proche, Koptos, puisqu'on sait par la description de Georges de Chypre, en 772, que Koptos fut aussi appelé Justinianopolis. Il est certes étonnant que cette information ne se retrouve nulle part ailleurs, même pas dans les papyrus. Le silence de la documentation papyrologique est néanmoins relativisé par le fait que nous avons très peu de papyrus grecs mentionnant Koptos à partir du VIe siècle et que les autres exemples d'éponymie impériale montrent que le nom traditionnel continue à concurrencer le nouveau nom dynastique. Il se peut donc fort bien que le nom de Justinianopolis, promu par les autorités, ne se soit pas accrédité dans l'usage courant ou qu'il soit vite tombé en désuétude au profit du nom traditionnel. Que Georges de Chypre en soit l'unique témoin montre ce que l'on savait déjà, que sa description est fondée sur des registres officiels. Il ne serait donc pas invraisemblable que Justinien est tenu à distinguer, en lui donnant son nom, Koptos, par laquelle transitait l'or extrait et sur laquelle a dû rejaillir l'intense activité de ce site minier. Mais ce n'est là, je le sais bien, qu'une hypothèse, pour l'instant invérifiable. Alors, je suis dans les temps. Voilà quelques éléments sur le désert oriental dans l'Antiquité tardive. Je voudrais conclure en disant que le désert oriental a fait l'objet depuis ces 20 dernières années d'une activité de recherche jusqu'ici inégalée. Et le colloque de ces deux derniers jours est là pour en témoigner. Et tout cela, évidemment, a modifié notre connaissance de cette région. Les résultats des investigations récemment menées ou qui sont en cours, ainsi que la publication future de la documentation qui a été trouvée, continueront à la modifier en profondeur. Et je forme donc tous mes voeux pour que mon exposé soit le plus rapidement possible complètement obsolète. Je vous remercie.